Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce matin. Soyez les bienvenus donc dans la maison de prière. Alors, c'est un peu le temps des allergies, donc vous m'excuserez par avance si ma voix est un peu enrayée. J'ai aussi passé une semaine assez lourde à parler 6 heures par jour. Donc, ce n'est pas courant de ma part. Et donc, on verra comment Dieu conduira les choses. Mais avant, j'aimerais prier. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Merci de nous avoir révélé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et ce matin, Seigneur, si nous sommes réunis, c'est bien parce que tu l'as voulu ainsi. Et nous voulons être reconnaissants, t'exprimer ce matin l'hommage de nos cœurs pour ce salut si merveilleux. Ce matin, Seigneur, sur toute la terre, des frères et sœurs seront réunis pour aussi t'adresser un culte en esprit et en vérité. Et ma prière est que tu nous visites, que ton esprit soit au milieu de nous et que collectivement nous puissions te révérer ce matin. Père, que tu sois avec mon esprit, que tu sois avec ma langue, afin que je puisse annoncer Christ ressuscité, Christ vainqueur sur la mort, Christ notre Père éternel, notre Seigneur et Sauveur. Alors que tu conduis ces moments et que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, te révérer ce matin. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alors, vous vous souvenez la dernière fois, donc on avait abordé le chapitre 1 du livre de Daniel. Et j'aimerais juste rappeler quelques points avant que nous abordions le chapitre suivant. Nous avons vu que de jeunes adolescents promus à une brillante carrière dans la cour royale de Jérusalem avaient été arrachés à leurs parents, déportés en Babylonie. Une épreuve pour des jeunes d'une quinzaine d'années. Ces jeunes, Daniel et ses compagnons, avaient justement un défi à relever, à savoir être dans le monde sans y être en réalité. C'est ce que nous avons vu. Ils ont décliné les mains du roi et Dieu les a honorés, justement parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Non seulement il a permis qu'ils réussissent leur formation de 3 ans, il leur a aussi donné d'être brillants dans tous les domaines. Ils ont excellé non seulement par rapport à leurs frères juifs, mais aussi par rapport aux jeunes babyloniens. La grâce de Dieu. Alors ce matin, nous aborderons le deuxième chapitre du livre de Daniel. Donc nous lirons des versets 1 à 24. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'il lui dise ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensé à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et l'instruisit de cette affaire Anania, Mishaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Le texte, il est long, mais nous en avions besoin d'avoir tout le fil de l'histoire. Le message ce matin, je l'ai intitulé « Le cauchemar du roi le plus puissant de toute la terre ». Et en introduction, juste quelques questions à vous poser. Qui n'a jamais été angoissé par un cauchemar au point d'être encore inquiet après s'être réveillé? Qui d'autre ne s'est jamais réveillé en sursaut après un cauchemar? Vous est-il déjà arrivé de faire le même rêve, inquiétant durant plusieurs nuits successives, et à vous demander s'il ne s'agissait pas d'un rêve prémonitoire, vous avertissant d'une catastrophe imminente? Vous en conviendrez, le cauchemar est une réalité humaine, mais quand il traverse l'esprit de l'homme le plus puissant de la planète d'antan, la réaction n'est pas tout à fait la même que pour le citoyen ordinaire. C'est ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, roi de l'Empire babylonien. Il a régné entre 605 et 562 avant notre ère. Pour ceux qui doutent de l'historicité de la Bible, voilà ici une inscription sur un cylindre d'argile commémorant justement la reconstitution d'un temple païen par Nabucodonosor II, qui n'est tout simplement que Nebuchadnezzar que nous venons de lire. C'est le même. Et vous voyez, sur ce cylindre d'argile est inscrit le nom de ce roi dont nous parlons aujourd'hui, que vous pouvez trouver au musée d'Israël. Une des preuves archéologiques qui démontre encore aujourd'hui la véracité de la Bible, son historicité. En effet, quand on est roi et tyrannique, tout peut arriver. Le citoyen ordinaire, croyant ou pas, peut y perdre la vie en cas de confrontation. Daniel et ses compagnons, tout en occupant des postes de haute responsabilité, n'échappaient pas à cette règle du tyran. Ce matin, je vous invite donc à voir comment incroyants et croyants furent confrontés à un cauchemar inextricable du roi de Babylone. Nous commencerons donc par examiner le cas des incroyants et donc des incroyants à l'épreuve du cauchemar du roi. Ceci, nous avons lu donc dans les versets 1 à 11. Toutefois, ce deuxième chapitre commence par situer le contexte historique des événements. Nous l'avons lu tout à l'heure, c'était la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Étonnant, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Puisque dans le chapitre précédent, nous avons vu, donc au chapitre 1, des versets 18 à 20, il est dit, au terme fixé par le roi, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Ils furent donc admis au service du roi. Il s'agit bien sûr de Daniel et de ses compagnons. Ces termes, nous avons vu, c'était 3 ans. 3 ans de formation. Et là, le chapitre commence par la deuxième année du règne du roi. Donc, une petite contradiction apparente. En effet, c'est la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Pourquoi ? Parce que dans le décompte des Babyloniens, la première année de l'accession au trône correspond à l'année zéro. Ce n'est pas comme le décompte hébraïque. Ainsi, la deuxième année du règne du roi coïncide avec les 3 années de formation de nos jeunes adolescents. Quelque part, ils ont été formés. Ils ont donc été promus à de hautes responsabilités et on voit d'emblée une seconde épreuve qui les attend. Cela étant dit, étant au service de la royauté, Daniel et ses compagnons allaient expérimenter une seconde épreuve. Mais venons-en au cauchemar du roi. Verset 1, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. J'ai noté que ce roi eut non pas un, mais plusieurs songes qui le rendaient insomniaque et visiblement cela devait être terrible et insoutenable pour le roi. On peut s'interroger d'où venaient ces songes. Ben, ces songes venaient de Dieu lui-même. Car en ces périodes de révélation, Dieu parlait aux hommes par des songes qui appelaient une interprétation. Et on le voit à travers l'Écriture. Notamment, j'ai trouvé un texte dans le livre de Job qui le rappelle. En Job 33, les versets 14 à 15, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'était le temps des révélations. Dieu parlait de la sorte. Et aujourd'hui, ce temps est révolu. Nous disposons du canon biblique, de la parole de Dieu, complète et toute suffisante. Méfions-nous de ceux qui nous disent qu'ils ont des visions, ils entendent des voix. Non. Nous avons tout pleinement dans l'Écriture, la parole révélée. Et j'ai trouvé un texte, c'est le Seigneur lui-même qui parle, en Matthieu 5, au verset 8. Car, je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Parole de Dieu est claire. Autrement dit, tout ce qui doit arriver est déjà consigné dans la Bible. Il n'y a pas d'ambiguïté jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc voyez-vous, la Bible, c'est la parole de Dieu, complète. Nous avons tout pleinement en Dieu. Alors, que fait le roi? Il consulte son armée de voyants. On l'a vu, verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Pourquoi? Pour qu'ils lui disent ses songes. Pourquoi les chaldéens? J'ai regardé tout petit peu, hein, donc dans des bibles d'études, il semble que c'était une classe particulière de devins, originaire bien sûr de la Chaldée. Mais on le voit à travers le texte, il semble avoir la primeur pour ce qui est de l'interprétation des songes devant le roi, puisque dans le texte, ben, l'échange principalement se faisait entre le roi et ses Chaldéens. Précisément, ce sont les Chaldéens qui répondront au roi dans sa quête d'explication des songes dont il a été l'objet. Versets 4 à 7, c'est toujours la même rhétorique chez les Chaldéens. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Et le roi de rétorquer, la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, pardon, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. En réalité, le roi eut la malice de ne pas révéler le songe pour justement tester la fiabilité des Chaldéens. Vous vous rappelez? Il est dit que le roi eut des songes. Ce n'est pas un songe, mais plusieurs. Et lorsqu'il était en présence donc des Chaldéens, des astrologues, le roi eut plusieurs songes, comme elle l'a vu, mais il les éprouve sur la base d'un songe. Verset 9, « Dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » C'est un roi malicieux, plein d'intelligence. Si vous me dites le songe dont j'ai été l'objet, je comprendrai alors que l'explication que vous me donnerez est crédible. Voilà la démarche du roi. Manifestement, ces païens dans l'épreuve ont adopté une double stratégie, comme nous l'avons vu. La première, il s'agit d'amadouer le roi, donc de l'amadouma. Ô roi, vis éternellement. Et la seconde, la ruse. Et le roi ne s'y trompe pas, les Chaldéens cherchent à gagner du temps. Verset 3, ben le roi annonce ce qu'il a vécu. J'ai fait un songe. Verset 5, le roi reprit. La chose m'a échappé. Verset 8, à nouveau, la chose m'a échappé. Sans aucun doute, ces Chaldéens cherchaient à gagner du temps, à abuser de la patience du roi. Devant la menace de mort et le saccage de leurs biens, ils finissent par capituler. Verset 10. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Enfin, il était temps. Aussi, leur ton change. Ils passent de l'amadouement à la défiance. Et c'est ce que nous voyons toujours au verset 10. Jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Pourtant, ces songes venaient de Dieu, comme nous l'avons vu, et donc voués à interprétation. Pour être pratique, on peut noter ici que dans l'épreuve, nous sommes souvent enclins à nous reposer sur notre propre intelligence. Tout comme les Chaldéens ici. On réfléchit. C'est la ruse. On cherche à gagner du temps pour savoir comment s'en sortir de l'épreuve. Alors, puissions-nous rechercher continuellement la face de Dieu pour discerner sa volonté. Face à un tel aveu d'impuissance, le roi décide alors d'étendre sa colère à toute l'élite du royaume. Verset 12, il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Il élargit l'assiette. Ce n'est plus les astrologues, ce n'est plus les Chaldéens, mais tous les sages du royaume. On comprend l'acharnement du roi, on comprend son désarroi. Le roi, dans une situation où il n'avait plus le sommeil et où il tenait absolument à connaître l'explication des songes qu'il a reçus. Daniel et ses compagnons étaient donc concernés, comme on l'a vu après la formation. Ils étaient dans la haute société, c'était des hauts fonctionnaires de l'Empire babylonien. Ils n'étaient donc pas en reste par rapport justement à cette sentence du roi. Voyons à présent comment ces croyants ont été à l'épreuve du cauchemar du roi. Et ceci, nous le voyons dans les versets 12 à 24. Avec donc l'annonce de la sentence, Daniel fait preuve d'un calme remarquable, ne cédant à aucune panique. Mettons-nous à sa place. Que faire lorsque l'on se sait condamné à mort? Ça devait être terrible. Mais pour autant, Daniel est resté calme, il n'a pas paniqué. Et même, c'est Daniel qui prend l'initiative, et il va au-devant du chef des gardes du roi, Arioch, chargé justement d'exécuter la sentence. En contraste avec les Chaldéens, versets 14 à 15, Daniel s'adresse d'une manière prudente et sensée. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Une manière prudente et sensée. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? J'ai noté de l'intelligence, du calme, et du tact pour connaître les raisons de la sentence royale et justement chercher à éviter le pire. À nouveau, Daniel prend l'initiative d'aller rencontrer le roi et pour lui demander du temps. là aussi, tout le contraire des Chaldéens, qui par la ruse ont cherché à abuser de la patience du roi. Voyez le contraste entre le païen et le croyant. Ce n'est pas la ruse. Non, l'heure est grave, la situation est grave. Je vais voir le roi et je demande un délai. Il demande du temps. Pourquoi avoir spontanément demandé du temps? Face à l'enjeu, c'est en premier parce que Daniel a reconnu sa faiblesse. Spontanément, j'en suis incapable. Il me faut du recul. Il me faut du temps. En 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10, il est dit ceci, c'est Paul qui parle. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. N'est-ce pas remarquable? Daniel a demandé du temps. Faible, mais en réalité, fort. Parce qu'il sait pourquoi. Et justement, le délai ainsi obtenu a été consacré à l'intercession. Point important, non pas individuelle, mais collective. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 17 à 18. Il instruisit de cette affaire Anania, Mishaël et Azaria, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. N'est-ce pas merveilleux? Ce n'est pas un combat solitaire. Non. C'est un combat entre frères, entre sœurs, croyants. Pourquoi? Justement, pour préserver non seulement leur vie, détail important, mais aussi celle des sages du royaume. C'est agir aussi pour l'intérêt du pays où ils sont en déportation. Là aussi, c'est étrange. Aujourd'hui, on considère que c'est de bonne guerre, donc de ne pas favoriser, on va dire, le développement de l'ennemi. On se souvient quand même qu'ils sont exilés, ils sont en Babylonie. Le roi est venu saccager le temple et eux, ils étaient donc déportés dans un pays qui n'est pas le leur. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est de bonne guerre de ne pas tendre la main à l'intelligentsia, aux sages de ce pays qui, finalement, se retournent contre nous. Mais ce n'est pas du tout l'attitude de Daniel et ses compagnons. Non, ils ont intercédé. Ils ont prié aussi pour tous les sages du royaume. Et justement, Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Vous voyez ici en Matthieu, chapitre 5, au verset 44, c'est le Seigneur qui parle, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La science de Dieu n'est pas la science des hommes. La science de Dieu est bonne. C'est tout un contraste avec les paradigmes de l'homme. Un autre enseignement que nous apporte ici le témoignage de Daniel, c'est la prière communautaire. En assemblée, il ne s'est pas enfermé dans sa maison pour prier seul, mais ses compagnons étaient invités à faire de même. Pourquoi? Il y a un psaume qui en parle, le psaume 133, et je relève juste la fin du dernier verset. S'agissant de l'amour fraternel, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et pourquoi? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voyez-vous? Daniel l'a compris. Et ceci a été mis en pratique. Ils étaient quatre. Et ils ont intercédé tous les quatre. Tous les quatre. Verset 19. Alors, vous voyez, il y a ces petites conjonctions dans l'écriture qui semblent anodines, mais qui sont revêtues d'un sens profond. Alors, le verset 19 commence par ce petit mot. Alors, comme pour attester que toutes les conditions étaient réunies. On poursuit. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Voyez-vous, il y a un frère qui a prié ce matin. Nous prions parfois mal. Alors, clairement, les conditions étaient réunies. Que nous sachions demander à Dieu ce qu'il attend de nous. Que nous sachions prier l'Éternel afin qu'il nous apprenne à prier. Et là, nous verrons les fruits. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Daniel nous livre ici un modèle de prière avec exaucement et aussi un modèle de prière de reconnaissance. Il a reçu la vision, il ne s'est pas arrêté là, il est entré dans une prière de reconnaissance. Et j'ai relevé ici le verset 23, c'est une prière que j'ai trouvée d'une beauté extraordinaire. Nous l'avons lu, mais j'aimerais revenir sur le verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que je t'avais demandé. Non, nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel ne s'est pas approprié cette révélation. Non. Nous avons prié, tu nous as révélé le secret du roi. En se rendant chez le roi, Daniel prit soin de demander au chef des gardes du roi de préserver la vie des sages du royaume. Voyez-vous, il n'est pas allé chez le roi en se disant « Oui, moi je suis sauvé ». Et j'ai noté « La vie d'autrui avant la sienne ». Préserve la vie des sages du royaume. Quelle démarche altruiste, extraordinaire de David. Verset 24. « Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Quelle victoire! La victoire du juste, parce qu'il s'est appuyé sur son Dieu fidèle, dont la fidélité ne fait jamais défaut. Alors j'ai noté, pour être pratique, face à l'adversité, nous devons faire preuve de sagesse et de tact. Pas besoin d'être dans la violence, dans la brutalité, dans l'agressivité devant un adversaire. Non, du calme, de l'intelligence, de la sagesse, du tact. Prendre le temps de partager les sujets. L'Église, c'est le corps de Christ. Prendre le temps de partager les sujets de prière, c'est important. Pourquoi? Pour connaître la volonté de Dieu. Là, la volonté de Dieu se manifeste. Et ensuite, être dans la reconnaissance lorsque Dieu répond. Que ce soit ce que l'on attendait ou pas, Dieu est souverain et nous nous devons d'être dans la reconnaissance quand il répond. Donc voilà le message que je voulais vous apporter ce matin sur ce chapitre. Et Dieu voulant, la prochaine fois, nous verrons l'explication que Daniel a donnée au roi. Et vous verrez que c'est une explication qui dépasse l'entendement. Comment Dieu est merveilleux, souverain, puissant, au siècle des siècles. Amen.